aujourd'hui, on va parler tactique, on va parler effectif du Paris Saint-Germain, car certes, il n'est pas exceptionnel, mais je pense qu'il y a quand même mieux à faire avec cet effectif. Alors aujourd'hui, on a Dryas et on a Yacine, invité du média Paris United. Allez vous abonner à Paris United qui fait du très 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 bon travail. Alors, on va commencer par notre invité pour changer, parce qu'en général, on est entre nous. Yacine, est-ce que déjà pour toi, tu penses que Galtier peut faire mieux avec cet effectif avant de nous dire, toi, par exemple, ce que tu ferais avec? Est-ce que on va dire que c'est la faute de Campos qui lui a pas donné un effectif équilibré, ou il est aussi responsable?
Écoute, moi, je pense qu'il est, de toute façon responsable, parce que évidemment qu'il y a des manques dans l'effectif, tous les profils ne correspondent pas, peut-être pas à ce qu'il attendait, mais malgré tout, il a un effectif qui tient la route. Et moi, je pense que le problème, c'est plus sur les principes de jeu et ce que tu demandes à tes joueurs. Moi, je le répète souvent, le problème du PSG, c'est pas forcément les individualités, c'est ce que tu leur demandes, le rôle qu'ils ont, et surtout le manque de collectif et de repères. Et je pense que le symbole, c'est un peu les Espagnols, Ruiz et Soler notamment, quelle que soit leur qualité. C'est des joueurs qui ont quand même réalisé de belles prestations, que ce soit en équipe d'Espagne ou que ce soit dans leur club respectif avant, parce qu'ils étaient dans un collectif, parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Je pense que le vrai problème du PSG aujourd'hui, c'est ça. Moi, quand je regarde le PSG, je ne sais pas si c'est une équipe de transition, si c'est une équipe de contre, une équipe de possession, si c'est une équipe qui joue bas, si c'est une équipe qui joue haut, si c'est une équipe qui veut le ballon, si c'est une équipe qui cherche à le laisser volontairement. Moi, je n'arrive pas à savoir. Je ne sais pas ce qu'on leur demande. Une fois Ruiz, il est à gauche, on nous explique que c'est pour être sur son pied gauche, et puis après, il est à droite, on nous explique que c'est plutôt pour trouver des passes vers Hakimi. Après, il y a trop d'incohérences, il n'y a pas de continuité. Voilà, je pense qu'il y a un peu. Il n'y a jamais qu'un seul coupable de toute façon. Mais évidemment que l'entraîneur, on est obligé de le mettre responsable. Parce que encore une fois, hein, moi je répète souvent la même chose, mais si il n'est pas capable de mettre en place quelque chose, de prendre des décisions et de faire des choix, bah, à la limite, ça ne sert à rien de prendre un entraîneur. On prend un accompagnateur, un mec à qui on va donner 2000 euros, qui est content d'être là, et puis il va faire les mêmes choix.
Ouais, en soi, après moi je lui trouve une excuse, c'est il y a quand même des problématiques de cohérence dans l'effectif. Enfin, tu vois, enfin, tu as beau chercher le système que tu veux mettre en place, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas. D'une certaine manière, on aurait presque l'effectif qui serait calibré pour un 4-4-2 à plat, mais t'as pas d'ailier. Il y a tout un tas de choses que tu pourrais imaginer et tu peux pas le mettre en place. Après en effet, au niveau de Galtier, on n'a vu aucun joueur progresser, on a vu des joueurs qui ont été utilisés, tu faisais référence à Soler qui est utilisé en 8, limite avec des responsabilités défensives, alors que clairement quand il était à Valence, c'était un 10 un peu particulier, mais c'était un 10.
Il est utilisé en 8, des fois il est utilisé à droite, des fois
ouais,
à
voilà, c'est puis le plus criant, c'est Vitinha, le mec qui a toujours joué dans un milieu à 2, il a toujours été cohérent dans un milieu à 2, que ce soit chez les Wolves ou quand il était à Porto, c'est là où il a fait ses grands faits d'armes, et puis il a dit, c'est le moment où il passe un milieu à deux, il ne le met pas dans le milieu, quoi. Enfin, tu vois, il met pas clairement pas les joueurs en confiance par rapport à des postes qu'ils connaissent. Et il a à la fois la circonstance atténuante d'un grand manque de cohérence dans la construction de l'effectif, mais au-delà de cette circonstance atténuante, il y a l'exploitation qu'il en fait qui est complètement insuffisante. Mais moi, de toute façon, au niveau de Galtier, il y a un problème de compétence qui apparaît. On avait des coachs avant qui étaient capables, au moins dans les grands matchs, d'essayer de trouver des trucs. On peut parler, Pochettino était extrêmement critiqué, mais par exemple, les matchs de Ligue des Champions qu'il a fait, Paredes qui tout à coup est devenu un joueur qui était utile et qui était mis en avant, faut essayer de trouver les autres saisons, autres clubs où il a été cohérent. Avant ça, Tourelle, que moi j'aimais pas, mais qui lui avait été capable de mettre en place un jeu sans ballon qui était une très grande cohérence. Chez Galtier, comme tu l'as dit, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ça va évoluer. On est complètement dupés dans la lecture du truc. Et ouais, il a des circonstances atténuantes, mais il y a un vrai problème de compétence du coach. Ouais.
Tu partages cet avis, Yacine ?
Oui, bien sûr, de toute façon. Moi, je le dis souvent, c'est que effectivement, que les entraîneurs au PSG, c'est compliqué, qu'il faut faire de la politique, qu'il y a des contraintes. Malgré tout, ça reste ton travail et tu dois aussi faire des choix, quitte parfois à pas choquer, mais mais à prendre des décisions qui peuvent paraître un peu choquantes. Je vais prendre l'exemple dont on parle souvent en ce moment, c'est la sortie de Messi sur certains matchs. Mais après tout, si tu es dans la compétition, si tu es dans la compétence et dans le qualitatif, bah oui, à un moment donné, tu dois faire ces choix-là. Et moi, je le dis souvent, c'est que les joueurs, ils sont toujours, de toute façon, quels qu'ils soient, ils n'aiment pas sortir. Donc, tu vas te prendre la tête un peu avec eux 24 heures, mais après, les matchs s'enchaînent tellement que le joueur, il passe à autre chose. Ce n'est pas vrai qu'on va t'en tenir rigueur longtemps. Et aujourd'hui, il ne fait pas de choix. Voilà, c'est son coaching, c'est souvent les mêmes. On peut presque le prévoir à l'avance. Voilà, ça veut dire qu'il ne s'adapte pas à ce qui se passe sur le terrain, mais il fait que de la politique, en fait.
Ok, bon, on va essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet et dans le concret. De manière générale, je ne sais pas si vous voulez commencer par une ligne en particulier, peut-être ce qui est le plus criant, on va dire peut-être le milieu de terrain. Toi, Yacine, par exemple, au milieu de terrain, tu ferais quoi? Tu resterais à deux milieux, tu essayais de mettre un peu plus de densité, peut-être mettre quatre milieux, vu que maintenant on n'a pas Neymar, par exemple.
Je pense que déjà, ça dépend aussi de l'adversaire, malgré tout. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai deux milieux qui, aujourd'hui, sont titulaires au-dessus des autres, c'est Verratti et Danilo. Danilo, il s'est imposé, il a fait ce qu'il fallait, et je trouve que même dans son comportement, dans sa façon de dire certaines choses sur le terrain, il est irréprochable. Il s'en fout du statut du joueur quand il a quelque chose à dire. On l'a vu à Benfica avec Ramos, on l'a déjà vu l'année dernière en Ligue des Champions avec Messi. Voilà, quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il le dit. Et en plus, je le trouve cohérent dans ce qu'il a à faire. Voilà, on sait très bien, Danilo, ce n'est pas le joueur qui va te prendre le ballon, éliminer une ligne, balle au pied, etc. Mais voilà, il fait des choses qu'il sait faire. Et moi, j'aime les joueurs qui font ce qu'ils savent faire. Après, en fonction de l'adversaire, je pense qu'il y a. Pour moi, Vitinha, ça reste. Son début de saison, il m'a montré des choses. Malheureusement, c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit avant, c'est l'histoire d'être à deux milieux. Et il a souvent joué comme ça, et on voit bien quand même que ce sont ses repères, et que dès que ça passe à 3, il est un peu perdu. Et moi, Vitinha, le vrai problème que j'ai en dehors du 2 ou 3, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, il se perd à compenser tout ce qui se passe autour. Et c'était son rôle au début. Mais je trouve qu'il en oublie presque le ballon. Je regardais encore là le match contre le dernier match contre Lille, et je le vois à un moment donné se positionner très haut, parce que Messi a décroché. Contre le Bayern aussi, quand il est rentré. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est presque obnubilé par ça, de se dire, ah bon, dès que les autres font quelque chose, moi, je dois compenser, et il oublie de jouer. Et malgré tout, ok, c'est bien de compenser, mais à un moment donné, on a aussi besoin de joueurs de ballon. Donc voilà, après, ça dépendra aussi du système, comme tu dis. Moi, je continue de penser que cette équipe est mieux à 3 derrière, donc avec deux milieux. Après, quand on donnera nos compos, il faudra. Enfin, j'ai pas voulu faire de football fiction en me disant on est obligé de tenir compte du contexte PSG. Aujourd'hui, il y a Neymar, Mbappé et Messi. Donc il faut les mettre. Après, dans le coaching, il y a autre chose à faire, mais il faudra les mettre quand même. Donc après, il faut adapter.
À titre perso, Danilo, oui, en soi, Danilo, c'est le bon soldat, c'est le mec qui est jamais décevant. Maintenant, tu es dans un club qui est cohérent avec les ambitions que tu as. Danilo, c'est ton premier remplaçant, mais c'est certainement pas ton titulaire.
Normalement. Normalement.
Ouais, voilà. Après Marco Verratti, pour moi, il y a des problèmes. Pour moi, la seule solution, en fait, pour pouvoir jouer avec Marco Verratti, c'est de jouer dans un milieu à deux, parce que Marco Verratti, il est excellent en 8 sans ballon, et il est excellent en 6 avec ballon. C'est-à-dire qu'au niveau de la défense, c'est un joueur qui va être très très bon en défendant sur l'homme, mais il n'est pas forcément bon comme pouvait l'être un Mota, comme peut l'être un De Jong. Enfin, lecture de l'environnement, placement par rapport à l'environnement, etc. Défense en zone, quoi. Et le problématique, c'est qu'avec ballon, Marco Verratti, c'est un mec qui ne sait pas jouer 15 mètres au-dessus du ballon. Il est toujours derrière la balle. Alors de temps en temps, il va monter au-dessus. Et donc c'est compliqué de l'avoir dans un milieu à 3. Il y a eu un moment, il y a eu quelque chose qui était cohérent, qui est apparu, où tu avais Soler, Marco et Vitinha qui étaient au milieu, et tu avais cette espèce de micmac où tu avais Soler qui sans ballon était le 6. Et tu avais Marco qui, avec ballon, était le 6, où ça tournait, où tu avais justement. Pas Soler, pardon, Ruiz. Tu avais Ruiz, c'était vers novembre, etc. Et il y avait cet essai cohérent. Mais en effet, le milieu, pour moi, tel qu'on l'a, Alors je mettrais plus Vitinha. Vitinha, on l'a pas assez vu justement dans un milieu à deux. Mais c'est tel qu'on l'a, en fait, on est fait pour jouer à deux. Marco Verratti, on le sait, que ce soit en sélection, la sélection là où il a été très utile, c'est quand il était avec Jorginho à côté. Et là, ça donne du crédit à la thèse justement d'Danilo. Maintenant, pour moi, on a un déficit de création avec Danilo. Et du coup, j'essaierais, si je devais faire un milieu et loquer un milieu, j'essaierais sur la continuité. Je tenterai le Verratti Vitinha qui pourrait apporter de la cohérence. C'est-à-dire que sans ballon, tu ne comptes pas sur le fait d'avoir un 6. Après, la problématique, c'est que tu disais tout à l'heure que tu voulais la défense à 3. Le problème, c'est qu'on n'a pas une défense qui est taillée pour jouer à 3, que ce soit au niveau de la qualité du placement par rapport au fait de jouer la ligne de hors-jeu à 3. C'est infiniment plus complexe. On n'a pas ce stopper qui est capable de se projeter comme un Skriniar qui est mine de rien important. Kimpembe pourrait l'être, mais Kimpembe, est-ce que c'est un joueur sur lequel on peut encore compter? Il y a un moment où Kimpembe, on n'en entendait plus parler, il revient là. On va pas parler de sa prestation avec la quantité d'absence qu'il a. Mais on a un Marquinhos qui a vraiment du mal quand il est à 3. À mes yeux, on a un Ramos qui est très bon, mais qui a des absences qui sont fatales parce qu'il est trop vieux, tout simplement. Et du coup, moi, la charnière à 3, j'ai vraiment du mal à la voir se dessiner, et c'est la problématique. Parce que si on est dans un milieu à 2 et qu'on n'a pas une charnière à 3, c'est un 4-4-2 et on n'a pas d'ailier. Donc là, c'est là où on touche pour moi les incohérences. C'est-à-dire qu'on n'a pas, à mes yeux, on n'a pas les éléments pour construire la charnière à 3. Et on n'a pas les éléments pour jouer en 4-4-2, et pourtant notre meilleur milieu, ce serait milieu à 2. Donc,
alors après, juste pour rebondir là-dessus, sur la défense à 3, je te rejoins, mais en fait, je te rejoins dans la façon dont Galtier les a alignés. Moi, je pense que Marquinhos axial droit, ça peut être beaucoup plus intéressant.
Ça, oui.
Voilà, avec Ramos dans l'axe.
C'est n'importe quoi, ça. Voilà. Pourquoi c'était... Enfin, c'est tiltant. C'était tiltant. Hein. Bah, excuse-moi, je te coupe la parole. Non,
donc, ça, c'est moi. Et la deuxième chose, c'est que sur le fameux 4-4-2, moi, je pense qu'il y a une solution. C'est de faire monter Hakimi et Mendes plus haut et de jouer avec Bernat dans le dos de Mendes. Et alors, Mukele, Pembele dans le dos d'Hakimi. Pourquoi ? Parce que en fait, ça ressemble plus à des ailiers. Ils sont capables de se projeter, ils sont capables aussi de prendre la profondeur. Et en fait, alors attention, je ne suis pas en train
un immense bug là-dessus. En fait, la problématique, c'est que tu en as un qui se blesse, tu n'as plus aucune solution. En fait.
Ça, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as ces joueurs-là disponibles, etc., ça peut être une solution. Par exemple, moi, j'étais persuadé que contre le Bayern, c'est ce qu'il ferait dans ce fameux 4-4-2. Parce que Solaire, dans ce 4-4-2-là, il est inutile. Et notamment en plus, quand tu as décidé de jouer bloc bas et de te projeter sur les quelques transitions que tu auras à faire. Donc, c'est une possibilité. Après, encore une fois, ce n'est pas la meilleure parce que moi, je n'aime pas non plus quand on double les latéraux parce que les latéraux, ils ont aussi des réflexes. Et notamment de se replacer très bas. Et des fois, tu te retrouves avec une ligne de 6, avec un doublon qui est proche parce qu'ils ne savent plus trop où se passer, si c'est plus haut, plus bas. Il y a des repères, il fallait le travailler avant. Maintenant tu l'as pas travaillé, donc c'est un peu trop, ce sera un pari, mais je pense que ça aurait pu être une solution avec les profils de Mendes et d'Hakim.
Ça fait sens.
Mais les gars, il y a quelque chose qui revient souvent. En fait, on a le trio devant qui nous empêche de le faire, mais là peut-être on aura l'occasion de le faire. Je comprends pas pourquoi à chaque fois qu'on parle de défense à 3, on parle forcément de milieu à 2, alors qu'il y a la possibilité d'avoir une défense à 3 et un milieu à 3 aussi, que personne n'évoque assez.
Ça revient plus ou moins au même, dans le sens où qu'à partir du moment où tu vas avoir une charnière à 3, tu n'auras pas un 6 points de base, et donc tu vas te retrouver avec un milieu à 3 qui sera 2 points de base plus un 10, en fait, et ça revient plus ou moins au même. Le fait d'avoir une défense, une charnière à 3 et d'avoir une pointe basse, ça ne fait pas tellement sens au niveau de ton milieu.
Ça, non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au lieu d'avoir peut-être... deux joueurs défensifs, un joueur offensif, tu as vraiment trois milieux de terrain, et qui dans un milieu, par exemple, si tu affrontes le Bayern avec trois milieux qui ont vraiment le ballon, ça peut les mettre en difficulté parce que tu vas ramener de la densité et tu ne seras pas vraiment un numéro 10 comme par exemple Neymar qui est très très haut. Ce sera vraiment un numéro 10 qui participe et qui se projette devant.
Mais tu vois, là justement, là aussi, on touche une deuxième limite de l'effectif. C'est que ce système-là, là, à 3, avec ces fameux joueurs entre guillemets, qui peuvent donc permuter, puisque je pense que c'est ça l'idée que tu veux. C'est en gros un des trois milieux qui peut se projeter, les deux autres qui gardent le ballon, qui inversent un peu leur position. Alors, pas tout le temps, mais voilà. Bah, en fait, c'est ce que faisaient Mota, Verratti et Matuidi. Tu avais trois profils bien complémentaires avec Matuidi justement qui se projetait beaucoup plus que les autres. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, tu n'as pas ça. Parce que Ruiz, ce n'est pas un joueur qui se projette comme ça par la course. Vitinha non plus, Verratti non plus, Danilo non plus. Donc en fait, tu vas avoir trois milieux qui sont un peu, entre guillemets, hein, pas les mêmes caractéristiques, mais le même profil. C'est-à-dire qu'ils sont là dans les trois milieux, ils vont rester un peu en position. Mais tu ne vas pas avoir de permutation ou de choses qui vont poser problème à l'adversaire. Et moi, je pense que c'est ça, une des faiblesses du PSG aujourd'hui, globalement, c'est en fait la lisibilité. Cette équipe est trop lisible. Il n'y a pas de surprise. Tu sais ce qu'ils vont faire.
Pas de
Tu sais qui
dépassement de
va être placé
fonction.
où. Comment?
Pas de dépassement de fonction. Tu
Mais
as
bien
aucun
sûr.
joueur qui sort du rôle qui lui est assigné et tu n'arrives même pas toujours à comprendre le rôle qui lui est assigné, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun. C'est le milieu auquel tu fais référence, il existe, mais il n'est pas disponible. Et puis moi je suis pas séduit par le joueur, c'est Renato Sanchez. Moi, je suis pas séduit par le joueur. Pourquoi? Parce que son impact défensif est vraiment mauvais. Alors après, s'il est capable de faire ses projections, pourquoi pas? Ouais. Enfin, pardon, excuse-moi, je t'ai
Non,
coupé la parole,
mais
j'aurais
voilà.
peut-être pas dû, mais c'est.
Et je pense d'ailleurs que Galtier, dans l'idée du 4-4-2 face au Bayern, moi je reste persuadé, parce qu'au moment où il le tente en Arabie Saoudite et tout, qui commence à le mettre en place, entre guillemets, il y a Renato qui est revenu de blessure. Et moi je reste persuadé que dans son idée, c'est Hakimi, Renato le couloir droit.
Ouais, bah, y a des chances. Mais d'une manière générale, tu vois, enfin, le 4-4-2, tu vois, ça c'est un truc, c'est par rapport à Galtier, mais je pense qu'il faut sortir de Galtier. Pour moi, le 4-4-2, il revient dedans parce qu'il a besoin de lui-même se construire des certitudes. Il savait que ça fonctionnait à Lille. Et d'ailleurs, tu t'es retrouvé avec exactement la même chose. C'est-à-dire que tu te retrouvais avec ton bloc équipe qui était en mode pressing à partir du moment où l'adversaire passait la ligne médiane. Mais tant que l'adversaire était dans son camp, on les laissait jouer. Et enfin, on a fait un peu du Lille. Sauf que la problématique, c'est qu'à Lille, au niveau des offensifs, bah, ils avaient les ailiers qui allaient bien. Alors, reste la solution que tu proposais d'utiliser, moi qui ne me séduis pas, parce que pour les deux raisons, pour la raison que tu as annoncé, c'est-à-dire qu'ils ont des réflexes. Autant Nuno Mendes, j'ai aucun souci, il saurait s'adapter parce qu'il a une intelligence et un QI foot qui est absolument hallucinant. Autant Hakimi, il aurait tendance à revenir en arrière et ça poserait problématique. Et puis il y a la problématique de blessures, suspensions, etc. Et tu n'as pas de solution si jamais tu as fonctionné comme ça. Ouais, en soi, oui, le milieu dépassement de fonction existe, mais la grande différence par rapport à l'époque, c'est qu'à l'époque, c'était surtout
Bien
Mota,
sûr.
le joueur clé, qui justement était un 6, en fait, qui est un vrai 6, qui était capable de défendre en zone et qui apportait cette stabilité en étant capable d'être là où sera l'action et de faire l'intervention qui compte, et qui tout simplement qui désarmait beaucoup. Des velléités d'attaque adverse, en fait.
Je vous ai beaucoup entendu parler de projection. Galtier en a parlé hier en conférence de presse aussi. Il a dit qu'il travaille pour que les autres joueurs se projettent un peu plus, surtout les milieux de terrain. Je trouve que le Paris Saint-Germain, quand même, au niveau des buts, des buteurs, il n'y a pas beaucoup de joueurs en dehors des trois de devant. On a vu pendant l'absence de Mbappé, je crois, Hakimi, il s'est illustré un petit peu. Mais qu'est-ce que vous pensez de la participation offensive de tout ce qu'il y a autour des trois? Parce que ces temps-ci, j'ai vu que Vitinha, par exemple, il est beaucoup critiqué. J'ai vu une explication qui disait qu'entre guillemets, les joueurs sont bridés par les trois de devant. Et notamment, je pense que le plus criant, c'est vraiment Vitinha, parce que quand il arrive dans les derniers mètres, il a souvent tendance à se désintéresser de ce qui se passe après, je trouve. Et je vous suis sur le fait que c'est un très bon joueur, mais j'ai l'impression qu'au Paris Saint-Germain, il est bridé.
Oui, moi je pense que oui, parce que mais je pense que ça vient en fait de deux éléments. Évidemment, les trois devant, mais en fait, c'est la posture ou le statut que leur a donné Galtier. À savoir, ils font ce qu'ils veulent, ils sont là pour faire la différence. Et d'ailleurs, Galtier, dès que tu critiques un peu là-dessus, il te sort les statistiques. Alors évidemment, c'est facile de sortir les statistiques et de dire oui, mais on ne peut pas faire autre chose. Moi, je pense que trois joueurs, c'est trop t'adapter à trois joueurs. Et je pense que dans, à force de parler d'équilibre, de répéter l'équilibre, 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 attention aux transitions, et ben en fait, ces joueurs sont bridés. Alors, peut-être pas directement, Galtier leur dit, vous n'y allez pas, ce n'est pas interdit. Par contre, c'est plutôt de dire, attention les gars à la perte de balle, attention, parce qu'on sait que ça travaille moins là-bas, donc il va falloir être en place. Et du coup, le joueur, naturellement, quand tu lui envoies ce message, il se dit quoi? Bon, va falloir que je reste en place, parce que si on perd le ballon et que je suis déjà là-haut pour aller finir l'action, en gros, c'est moi qu'on va accuser de ne pas être en place. Et finalement, moi, c'est ça que je ressens. C'est une équipe qui est capable. D'ailleurs, on l'a vu, moi, j'ai refait une minute tactique sur Paris United, sur le Bayern, le dernier quart d'heure, où tu sens que Paris veut quand même égaliser. Évidemment, il y a l'entrée d'Mbappé, il n'y a pas de problème. Mais où tu sens qu'ils veulent quand même aller chercher l'égalisation. Et comme par hasard, tu finis avec du monde dans la surface. Il y a une action où Vitinha reprend le ballon sur la fameuse talonnade de Ruiz. Le centre d'Mbappé, la balle qui est sortie, il y a sept joueurs parisiens dans les 30 mètres de Munich. Donc, moi, je pense réellement que c'est le discours de Galtier qui, à un moment donné, bride les joueurs. Et comme on n'a pas des joueurs de caractère capables de dire, en fait, OK, le coach, mais moi, je suis capable de sortir de ça. Tu vois, par exemple, quand Danilo et Ramos font la remarque en fin de match après le Bayern. Pour moi, c'est un message qui est envoyé au coach, mais en même temps, j'ai envie de leur dire, mais les gars, OK, maintenant, vous, quand même, avec votre carrière, votre parcours, votre passé, etc., votre CV, bon, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes capable aussi de dire aux joueurs, oh, le Bayern, ce n'est pas si dangereux, avançons de 20 mètres, avançons de 15 mètres. Les consignes du coach, OK, mais c'est quand même vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui ressentez les choses. Donc, oui, je pense qu'il y a ce truc-là, et Vitinha, c'en est le symbole. Parce que, en première partie de saison, en tout cas au début, quand on jouait en 3-4-3, là, on voyait beaucoup Vitinha être très haut, parfois même à la place de Messi, à la place de Neymar. Et aujourd'hui, il le fait moins ou il le fait juste par compensation, plus pour avoir le ballon et créer quelque chose. Je pense que le discours de Galtier là-dessus, mais c'est aussi un discours quand même très, très franco-français de l'équipe en place, on est d'abord solide, on est d'abord équilibré, etc. Oui, et on voit aujourd'hui malgré tout, alors quel que soit le résultat, qu'il y a beaucoup d'équipes de très haut niveau qui assument en fait une partie d'un déséquilibre. Moi, je le dis souvent sur le PSG, pour finir là-dessus, quand tu joues haut, évidemment qu'il y a la gestion de l'espace. En fait, à un moment donné, il faut assumer quelque chose et aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu ne pourras pas et gérer la profondeur et être bloc haut. C'est ou l'un ou l'autre. Eh bien, tant pis, on assume la profondeur, on se dit on a un gardien qui doit gérer la profondeur, on se dit on a peut-être Marquinhos, Kimpembe qui ont quand même de la vitesse pour gérer la profondeur. Et on l'assume. Mais tu ne peux pas en fait faire les deux. Et après, on nous dit tout le temps, ah, l'équipe, elle est trop vite coupée en deux. Bah oui, c'est logique, puisque tu as une partie de l'équipe qui ne veut pas gérer la profondeur et qui recule très vite, et une autre partie qui est faite pour jouer haut. Donc c'est normal que ton équipe, elle est coupée en deux. Donc, encore une fois, on revient aux consignes de Galtier. Assume quelque chose, mets tes principes en place. Soit tu joues bloc haut, soit bloc bas, mais tu ne peux pas faire les deux. Et ton équipe, elle est trop vite coupée en deux.
Après, le truc, c'est que le Bayern, est-ce que c'est le bon exemple? Moi, le Bayern, moi, j'ai passé mon match à me dire, mais ils sont pas si forts, le Bayern, cette année, quoi. Ils sont vraiment pas si forts. Et
Clairement.
pendant le match, c'était extrêmement faible. Et ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le dernier quart d'heure, tu es en train de pousser. Alors, comme tu l'as rappelé, hein, l'entrée de Mbappé, elle est déterminante pour ça. C'est-à-dire que tout à coup, tu as cet électron libre qui oblige le Bayern à reculer parce que, il va exploiter le dos comme personne. Ils sont pas si en confiance que ça.
D'ailleurs, juste là-dessus, le
Oui.
Bayern a quand même changé la position de ses trois défenseurs à cause d'Mbappé. C'est-à-dire que tu avais
Ah, non,
Meunier
non.
à gauche, Upamecano et Pavard, ou à l'entrée d'Mbappé, Upamecano passe à droite, Pavard passe carrément à gauche et De Ligt dans l'axe. Tellement il fallait faire quelque chose. Donc tu vois bien que, évidemment, que cette problématique-là pour le Bayern, elle est hyper importante.
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est toi, par exemple, si tu tombes contre une équipe qui a un peu de certitude, est-ce que ce dernier quart d'heure, tu es capable de monter de cette manière-là? J'en suis pas sûr. Par exemple, tu as le Bayern il y a 2 ans, même avec l'entrée, enfin, quoique l'entrée de Mbappé, elle est. C'est un joueur qui fait vraiment peur aux équipes adverses. Mais tu sens qu'il y avait des doutes chez ce Bayern, et il y avait un manque de certitude, et qui nous laisse remonter comme ça. Pour revenir à la question de Knicks, enfin, après Vitinha, pour moi, Vitinha, il a été. Je rajouterais, enfin, t'as dit l'essentiel, je rajouterais un élément, et que j'ai déjà dit, mais c'est un joueur qui est bon à un poste. Tu l'as mis d'abord dans un poste ou qui ressemble un peu à ce poste-là, il est bon en double pivot, il s'est retrouvé à jouer 8, il a porté des trucs. Enfin, même au bout de 3 matchs, on était en train de se dire, on avait l'impression qu'il était là depuis 5 ans, tellement il a apporté enfin quelque chose. Puis après, tu commences à le mettre 10, et quand tu joues à 2, quand tu joues justement en double pivot, tu le mets jamais. Il y a un moment où Vitinha, tu peux... À mon avis, sa confiance, elle est au degré zéro. Et le mec, il commence à plus savoir, à plus reconnaître son foot parce que il y a des coachs qui savent faire progresser les joueurs. J'ai l'impression que Galtier, lui, il est fort pour enfoncer les joueurs. Il faut que le joueur soit très solide pour réussir à tout simplement à performer. Et quand
d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, c'est intéressant parce que tu vois, ce qui m'énerve. Et quand je critique Galtier, ça en fait partie, le mec te dit, après, je ne sais plus quel match, mais il y a 2-3 matchs, Vitinha, en 10, c'est pas ses compétences, on l'a mis en difficulté, en gros, mais le mec continue à te le mettre en 10. Non, mais ça, c'est...
Oui, mais c'est surréaliste. Mais Galtier, tu as l'impression que c'est le mec qui... Juste sur ça, mais c'est un aparté, tu as l'impression que c'est le mec qui est capable de poser un diagnostic. Qui... Mmh. Et puis après, plus rien. Il est juste capable de poser le diagnostic. Et après, et juste pour en revenir, Nick, tu avais ouvert sur les trois de devant. La grande problématique des trois de devant, c'est les circuits préférentiels de passe. C'est-à-dire, on prend un Hakimi qui... Nuno Mendes, il est un peu différent, parce que Nuno Mendes, c'est un tel fury class que même si tu t'appelles Neymar, que tu t'appelles Messi, tu ne peux pas l'ignorer qu'il est au-dessus du lot.
Je crois aussi qu'il a un caractère plus fort. Il est capable à un moment donné de se dire, moi,
tu parles de Nuno,
en fait. Ouais. Alors que Hakimi, il est plus...
Hakimi, il est en train de revenir bien, mais il a fallu combien de temps pour qu'il revienne bien. Et ce que je veux dire, c'est que les trois de devant, ils ont un côté circuit de passe préférentiel qui font que tu montes. Mais tu sais que tu vas très peu avoir la balle, et donc à quoi ça sert de monter? Et c'est une des problématiques par rapport à nos milieux qui ne sont pas dans une logique participative, assez participative au jeu offensif, en tout cas à partir du moment où tu rentres dans les 40 adverses. Et ça passe par le fait que si tu vas faire un appel, la balle, tu ne l'auras pas forcément. Ou en tout cas, le ratio de temps que tu vas avoir la balle sera très faible par rapport à une situation normale. Pourquoi? Parce que si tu as un Messi ou Neymar, la passe, si c'est Messi qui a la balle, la passe sera faite à Neymar et vice-versa. Et il y a Mbappé qui, lui, parce qu'il est trop fort, parce que c'est le patron, parce que machin truc, qui l'aura. Mais il y a une problématique, c'est l'appétence de ces joueurs à jouer uniquement entre eux et d'une certaine manière d'être un peu tous les deux contre le reste du monde. Et ça, c'est une problématique au-delà de l'autre problématique qui est la non-participation à l'effort défensif d'une manière générale, à la perte du ballon. Quoi.
Ok. On a vu dans les commentaires peut-être nous demander pourquoi on mettait pas Sergio Ramos 6 dans un 4-3-3. Je pense que tu essaies peut-être un peu de faire du Sergio Busquets, un petit vieillard au mitard 6, mais je pense qu'il n'a pas du tout le coffre pour Sergio Ramos.
Mais c'est pas ses qualités en plus.
Sergio Ramos. Je pense qu'il pense à ses qualités de relance et de sortie de balle et tout ça, mais ça reste limité quand même.
Les qualités de relance de Ramos, c'est plus les ballons. Oh, c'est enfin les transversales, quoi. Les transversales, mais
ok. Bah écoutez, on va rentrer dans le concret. Normalement, vous nous avez préparé de belles petites compos. Si demain vous étiez coach du Paris Saint-Germain, déjà il y a plein de gens qui t'ont dit bonjour et Yacine, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vois qu'ils ont dit que tu es partout, que tu es. chez Paris United, que hier tu étais chez le club des 5 et tout ça, donc tu es un peu partout. Vas-y Yacine, je te laisse faire ta compo.
Là on part sur la compo
de base, pour toute la saison.
Donc moi sur la saison, je suis parti sur le 3-4-1-2. Je prends en compte, c'est-à-dire que c'est pas, je vais pas faire un truc de fou. Je prends en compte le fait que Messi, Neymar, Mbappé doivent débuter, c'est comme ça. Donc, de toute façon, ça va être du classique. Hein. Marquinhos, Ramos et Kimpembe. Moi, je mets quand même Verratti et Danilo aujourd'hui. Avec.
Je sais pas où est ta charnière.
Marquinhos, Ramos, Kimpembe, mais Ramos dans l'axe. Avec Marquinhos, axe droit. Verratti et Danilo au milieu. Mendes, Hakimi et Neymar, Messi, Mbappé.
T'en penses quoi, Dreyas?
J'étais en train de l'écrire, ça ressemble beaucoup en fait. La seule chose, c'est que je mets Marco Vitti au milieu, en fait. C'est tout. Et que je mets Danilo sur le banc, du coup. Enfin, Danilo, pour moi, c'est ou le remplaçant de la, le premier remplaçant de la charnière ou le premier remplaçant du milieu, en fait. Mais sinon, grosso merde, j'ai la même, mais en sachant que elle pose d'énormes problèmes, cette compo. Mais j'en trouve pas de meilleur. Ou sinon, ce serait le 4-3-3, tu sais, vraiment le 4-3-3 qu'on a eu, c'était en novembre avec Ruiz, Marco et Viti. Mais ça a bien marché pendant un mois, mais moi j'étais assez enthousiaste parce que je me disais que on avait enfin entre Ruiz sans ballon qui était 6, Marco avec ballon qui était 6, etc. On avait enfin retrouvé quelque chose de cette capacité à défendre. Et il m'avait beaucoup surpris à l'époque d'ailleurs Ruiz, parce que j'avais découvert qu'il savait défendre, alors que pour moi c'était un joueur qui ne savait pas défendre. Et mais bon, intervenu en janvier, Ruiz était complètement hors de forme, tu comprends pas pourquoi. Et donc c'est pas viable malheureusement sur le long terme. Et moi, si je pouvais 4-4-2, mais pour ça il me faut des ailiers, on les a pas, et donc par défaut, bah ouais, le 3-2-3-2-3-2, enfin 3. Enfin, le système proposé. Et mais c'est par défaut, parce que je ne crois pas en cette charnière, dans le sens où Marquis, c'est vrai qu'à droite, il est intéressant, mais par contre, il va être incapable de faire des projections. En plus de ça, Marquis, il est capitaine ici, on aura tendance à le placer au centre, et ce qui est une calamité. Effectivement, Ramos serait beaucoup plus cohérent à ce poste.
Mais tu vois, j'ai une alternative, parce que pour moi, il y a la question Ramos malgré tout, parce que Ramos contre le Bayern a été bon, notamment avec ballon, mais aussi bloc bas, parce que aujourd'hui il a plus la capacité à gérer la profondeur. Et tu vois, si vraiment je me décidais à jouer haut et d'aller contre-presser très haut et à rester là-haut le plus possible, je pense que Marquinhos dans l'axe avec Mukiele à droite, ça peut être plus solide encore, parce que Mukiele a cette puissance pour pouvoir gérer la profondeur. Il est aussi capable de se projeter côté droit, parce qu'il a joué couloir parfois à Leipzig. Et donc je pense que ça peut être même une meilleure alternative de jouer avec Mukiele axe droit et Marquinhos dans l'axe. Voilà. Je suis parti sur Ramos par rapport au statut au départ, et pas faire trop de foot fiction. Mais moi ma défense à 3 vraiment,
mais je suis pas convaincu.
C'est Mukiele axe droit, Marquinhos et Kimpembe.
Mukiele, pourquoi pas, hein. Mukiele, il a montré des choses très intéressantes justement quand il était en charnière, et c'était peut-être un petit peu plus discutable quand il était latéral.
Ouais, moi couloir, je suis pas fan.
Ouais. Mais j'ai des vrais problèmes moi avec Marquinhos. Marquinhos, pour moi, il est capable de jouer 6, il est capable de jouer défenseur, mais il n'est pas capable de jouer libéro, il n'est pas capable de jouer entre deux, en fait. Il l'a jamais montré, à chaque fois que ça lui a été proposé, il n'a pas été à la hauteur. Il a même eu une crise de confiance par rapport à ce poste où il commençait à tout rater. Le libéro, c'est quelqu'un qui doit être proactif et en même temps courir son dos en permanence. C'est lui qui doit placer la charnière, s'il doit être un vrai patron. Marquinhos nous a montré que c'était un très bon adjoint. Le meilleur de Marquis, c'est quand il était numéro 2 de la charnière et qu'il était déchargé de la responsabilité de etc.
D'ailleurs, à la Coupe du Monde, il fait une bonne Coupe du Monde avec Sylvain.
Hein ?
D'ailleurs, à la Coupe du Monde, il fait plutôt une bonne Coupe du Monde.
Ouais, avec voilà. Et dans une charnière à 3, être capable de... Surtout que c'est particulièrement complexe. C'est vraiment la charnière à 3, il faut être capable de compenser. Il faut que ta ligne de hors-jeu soit très bonne. Faut que tes mecs de côté puissent faire des montées, mais à ce moment-là, c'est le libéro qui va se replacer. Enfin, il y a une vraie intelligence de jeu au niveau du libéro qui demande un vrai leadership. Et Marquinhos n'y croit pas une seule seconde. Il y a, pour moi, si on veut jouer dans une charnière à 3, en fait, et j'ai vu le commentaire qui disait Ramos, etc. Il a l'intelligence nécessaire pour jouer à 3. Oui, Ramos, c'est pas l'assurance théorique s'il va faire des erreurs derrière, mais justement. Après, la problématique, c'est que Ramos est très intéressant dans ses projections. Et si tu le mets au centre, eh ben, c'est le joueur qui peut le moins se projeter. Mais en termes de QI foot, c'est le seul pour moi qui est capable d'utiliser ce poste, d'être à ce poste, en fait.
Ok. Il y a juste quelque chose qui... Enfin, comment il s'appelle, Yacine, il l'a mis dans sa compo, donc oui. Mais il y a un problème, Galtier et Danilo, parce que à chaque match, je vois qu'il le sort, et c'est pas loin à chaque fois d'être l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Je ne comprends pas ce qui se passe avec le cas Danilo. Des fois, au lieu de sortir des solaires ou des Fabian Ruiz qui sont complètement transparents, il sort le seul mec qui met de l'impact dans le milieu. Et au-delà de l'impact, on reproche souvent à Danilo de ne pas être très bon techniquement. J'ai pas en souvenir des erreurs qui nous font perdre des ballons dangereux ou des trucs comme ça ces derniers temps. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec Danilo et Galtier?
Moi, je pense pas qu'il y a un problème. Je pense que c'est la facilité. Danilo, c'est le joueur qui dit jamais rien. Danilo, c'est le joueur qui perd pas confiance, en fait. Et tu le sors, ça va pas le traumatiser. Et le problème, c'est que je pense qu'à un moment donné, Galtier, il joue là-dessus aussi. Ça veut dire que un Ruiz, qui est déjà pas bien, tu le sors. Et pourtant, c'est la logique parce qu'on est dans un football de haut niveau. On n'est pas là pour faire du social. On n'est pas en deuxième division de district et tu fais plaisir à un joueur. Mais les coachs réagissent parfois comme ça en se disant, est-ce que si je le sors maintenant, je le tue? Moi, j'ai tendance à penser que bah, si je le tue, c'est qu'il n'est pas fait pour le PSG. Donc, bah, tant pis, quoi, j'ai envie de dire. C'est qu'on s'est trompé et lui aussi s'est trompé sur le club. Donc, tant pis. Mais je pense que c'est la solution de facilité. C'est Danilo, il dit rien. Danilo, je le sors. Le prochain match, ça ne changera rien. Je peux lui faire confiance. Et il va pas mettre le bordel, voilà. Alors ça veut pas dire que Ruiz aurait mis le bordel, mais encore une fois, sur Ruiz, c'est plutôt le côté, il est déjà pas bien, si en plus je le sors, je vais le tuer. Voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, tu peux faire ça à Lille, tu peux faire ça à Nice, parce qu'en fait, on n'attend pas de toi des performances sur 60 matchs. Au PSG, tu peux pas. Quand un joueur, il n'est pas dedans, bah, il n'est pas dedans. Et si tu dois le tuer, entre guillemets, tu peux après discuter avec lui la semaine à l'entraînement. Mais si tu dois faire un choix pour le bien de l'équipe, il n'y a pas à se poser la question de savoir si le mec il va s'effondrer.
Ouais, mais j'ai du mal avec ça parce que, enfin, toi, peut-être que je pense qu'au niveau professionnel, toi, Ruiz, tu vas le sortir, tu vas pas le tuer, quoi. Je pense que, au contraire, même, un joueur peut se relever de ça. Ce qui est un des immenses défauts du Paris Saint-Germain, c'est que les joueurs ne sont pas assez mis en concurrence. On parle pas de joueurs qui étaient talentueux, mais un peu faibles mentalement, etc. C'est quand tu arrives au niveau du Paris Saint-Germain, tu as quand même une certaine solidité, tu as quand même montré certaines choses. Et
Alors, tu sais,
alors
on a
ouais.
fait un podcast, on a fait faire un podcast en août quand il a signé avec un suiveur de Naples. Et le doute qu'il avait sur Ruiz, justement, c'était cette capacité à être solide mentalement, à aller se faire mal, à être capable d'accepter la concurrence et certaines choses. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se vérifier. Moi, je pense que c'est des joueurs. Tu sais, c'est alors les Allemands ont appelé une certaine génération les gentils talentueux, là, les Draxler et compagnie. Je pense que Ruiz est dans cette veine-là, dans le sens où il fait partie de la génération Ceballos. Tu vois, Ceballos, moi je l'avais découvert à l'Euro Espoir avec justement avec Ruiz. J'adore ce genre de joueur. C'est vraiment, moi, c'est mon football, c'est-à-dire que les joueurs qui savent jouer au ballon, etc. Mais on voit bien que Ceballos, sur sa carrière, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il fait des bons passages à Arsenal, mais à un moment donné, ça s'écroule. Au Real, bah oui, il rentre de temps en temps, mais il n'arrive pas à s'imposer. Ils commencent tous à avoir 26, 27 ans. Et on voit que dans leur tête, ils n'ont pas passé ce cap. Et moi, je pense réellement que Ruiz, c'est le type de joueur comme ça. D'ailleurs, on le voit bien quand la période où
Peut-être,
il vient à
mais,
Inter.
mais du coup, tu vois, par exemple, si tu le sors parce que il est moyen, t'es sûr que tu vas le tuer? En
Ah non,
soi,
je pense pas.
tu sais, enfin, pour moi, t'as une chance sur deux, quoi. Je veux dire, le mec, il peut se dire, ah bah tiens, j'ai été moyen. Parce que si jamais tu sais, enfin, moi, je comprends pas en fait ce principe de donner un bon point parce qu'un joueur est moyen. C'est genre, je vais te
Non,
laisser sur
mais
le terrain
je
parce que t'es
suis.
moyen. Et
C'est
je
ce que j'ai
comprends
dit au
pas.
début.
Et je
Moi,
vois
je
pas en quoi
pense.
c'est constructeur.
Moi, je pense, comme
Ouais.
toi, c'est-à-dire que pour moi, c'est ça la compétition. Mais pour avoir parlé avec plein de joueurs,
Ouais,
etc.,
mais.
voilà, des coachs, ils pensent comme ça de temps en temps. Et tu vois, par exemple, on a aussi un mec comme Draxler. Draxler, au niveau talent, voilà, les 6 premiers mois qu'il fait à Paris, il n'y a rien à dire. On était tous en extase. Et finalement, on se rend compte que dès qu'il y a un peu de concurrence, dès qu'il joue un peu moins, eh ben, le mec a tendance à décrocher. Et malheureusement, il y a des joueurs qui sont comme ça. Et moi, en fait, c'est là la limite du coach. C'est-à-dire que comme moi, je suis comme toi. C'est-à-dire que moi, je suis aussi de temps en temps pour piquer les joueurs. Voilà. T'es pas bon, je vais te sortir. À toi, à un moment donné, de te faire violence. Malheureusement,
Avec certains, ça
pour aller dans
marche
la
pas.
continuité, voilà, je pense que Ruiz n'a pas ce caractère-là.
Ok, possible, ouais. Possiblement pas compte. Je voulais juste vite faire réagir à un commentaire qui disait et pourquoi Warren, pas Warren titulaire. En soi, ouais, c'est belle histoire, Warren, etc. Et formidable, mais tu te rends compte que il y a encore des limites. Puis en plus de ça, il a été lui aussi. Putain, c'est nous pour lui, c'est hallucinant. Il a été baladé à combien de postes, Warren? Plus de 3-4 hein, déjà. Voilà. Donc, quand on parle d'un joueur de 16 ans, c'est hallucinant, quoi, qu'il soit pas installé justement pour se construire des certitudes. Mais peu importe. Mais voilà, il est. Moi, Rennes, le truc qui fait énormément plaisir par rapport à tout le reste de l'effectif, quasiment, c'est l'envie. Il a l'envie de bien faire, il a l'envie de se dépasser, il ne va jamais lâcher, et c'est extrêmement bien. Mais il est encore un peu frêle, mine de rien, pour te dire, je vais faire une saison de Ligue des Champions et je le mets sur titulaire. Il faut lui laisser encore un ou deux ans.
Oui, mais tu vois, là aussi...
Mais il va progresser, il est pas loin, quoi. Mais de là, le mettre titulaire indiscutable, c'est un peu tôt.
Ouais, mais il y a une gestion de Galtier, encore une fois, qui est pas bonne sur Zaïre Emery. C'est que pourquoi toute la première partie de saison, il joue si peu. Voilà. Tu avais des points d'avance, tu gagnais le match, beaucoup de matchs où tu menais assez largement vite pour pouvoir faire tourner. Pourquoi tu lui as pas donné du temps de jeu à ce moment-là? Après, encore une fois, j'ai regardé la dernière fois, avant le Bayern, il en est à 230 minutes de jeu. Non mais en fait, c'est pas possible de lancer un mec avec tout le talent qu'il a. C'est pas possible de lancer un joueur dans un match comme ça et à 230 minutes de jeu en Ligue 1. Voilà. Il aurait fallu qu'il soit à 500, 600. Mais pour être à 500, 600...
Après, est-ce qu'il a le choix? Je me souviens plus bien juste avant le Bayern, mais de mémoire, il a pas...
Non, vraiment... non. Justement, mais c'est en fait, c'est toute cette préparation. Et moi, je veux bien qu'on me dise à chaque fois... on va pas anticiper les blessures. Mais en fait, ton travail, c'est que ça aussi. C'est de te dire, tiens, le match contre Lille, 7-1, est-ce qu'il y avait besoin de laisser les trois devant? Alors, il y a Neymar qui sort, je crois. Mais est-ce qu'il y avait besoin de laisser certains joueurs 90 minutes contre Lille alors que tu gagnes 7-1 et que tu gagnes 5-1 au bout de la 65e? Non, mais c'est là que tu dois donner du temps de jeu. Quand tu es à Reims et que l'équipe n'arrive pas, c'est là que tu dois donner du temps de jeu. Voilà, il y a des matchs qui étaient plutôt... facile, entre guillemets, c'est là que tu dois lancer tes joueurs et leur donner de la confiance. Le mec, il lance Zaïre Emery, 16 ans, à des postes, alors contre le Bayern, à un poste qui n'est pas le sien, mais avant ça, il le lance que dans les matchs bourbiers. Rennes, Lens, enfin, tu le mets en galère et après tu dis, ouais, le gamin, il n'est pas prêt. Bah oui, il n'est pas prêt, mais peut-être...
Et puis des matchs où c'est pas forcément acquis. Et puis des matchs où c'est pas forcément acquis, c'est-à-dire que tu lui mets une... Mais c'est là où tu vois qu'il est extraordinaire, Warren Zaïre Emery, c'est que justement, même quand des matchs, t'as l'impression qu'au niveau mental, il est déjà réglé, quoi. Mmh. C'est-à-dire que le mec, il va se battre. Mais titulaire, c'est un peu trop tôt. Mais clairement, c'est un joueur sur lequel on compte et on attend tous avec beaucoup d'impatience, quoi.
Bon, les gars, on va parler du Classico et qui arrive demain. Franchement, la mentalité du coach ne me plaît pas suite à sa conférence de presse hier où il dit qu'il n'y a pas de honte à perdre. Qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'il n'est pas revanchard suite à la défaite. Je suis vraiment pas en accord avec ça. Demain, c'est un match très important, je pense, pour la suite de la saison, tout simplement parce que si on gagne, je pense que le titre, il est plié. On va partir sur vos compos et savoir un peu ce que vous feriez demain pour affronter Marseille, sachant que ils n'ont pas Mbemba pour attraper Kylian Mbappé dans la profondeur. Et je doute que Eric Bailly fasse pareil. Donc vas-y, je te laisse commencer, Yacine, et dis-nous qu'est-ce que tu ferais face à Marseille.
Bon, déjà, j'aurais pas tout le même discours que Galtier, ça c'est sûr, mais comme je suis pas Marseillais, peut-être que c'est pour ça. en fait, moi, je partirais avec... Alors, le problème, c'est que Hakimi s'est entraîné hier, mais est-ce qu'il est disponible réellement? Je ne sais pas. Parce qu'il y a eu Zaïre Emery qui a été testé. Mais moi, je partirais sur ce que j'ai dit à peu près à la compo aujourd'hui, c'est-à-dire Marquinhos, Ramos et Kimpembe. Danilo, Verratti au milieu. Moi, je mettrais Messi en 10. Donc, dans l'absolu, Hakimi, Mendes sur les côtés. Maintenant, s'ils ne sont pas dispo. Mais... Voilà. Messi en 10, parce que je pense que sur ce match-là, Messi devant, garder le ballon devant, ou servir de relais juste pour Mbappé, pour moi, ce n'est pas intéressant. On a besoin de trouver rapidement des transitions, parce que Marseille, en fait, il y a deux choses. La première, c'est qu'ils viennent très haut et qu'ils laissent des espaces, quoi qu'il arrive. Et la deuxième, c'est qu'ils défendent en individuel. Ce qui veut dire qu'il y a des joueurs qui vont être chargés de marquer Messi, par exemple. Et si tu mets Messi plus bas, tu vas leur poser un problème. Si tu le laisses là-haut, Messi, ce n'est pas lui qui va te prendre la profondeur ou qui va poser un problème en termes de qualité athlétique au joueur qui va le prendre, peut-être Balerdi, peut-être Bailly, j'en sais rien. Donc, moi, je mettrais Messi en 10 et je mettrais, malgré tout, je retenterai Ekitike en ayant un rôle bien précis, c'est-à-dire que y a pas, c'est pas toi qui décides ce que tu vas faire. C'est voilà ce que moi je te demande. C'est de faire des appels, de libérer des espaces.
C'est pas faire des appels.
Je vais donner mon avis sur qui est vite fait là-dessus. Ouais. C'est que je pense qu'il sait faire. Je pense juste qu'il veut montrer certaines choses, comme quoi il est au niveau, et qu'il est en train de se perdre. Mais il se perd aussi parce que Galtier lui a pas. Lui aussi, la première partie de saison, il joue pratiquement pas. Les matchs qu'il fait, il est quand même impliqué. Encore une fois, c'est que des stats. Je ne suis pas fan des stats. Sur les matchs qu'il fait en janvier, il est impliqué sur 6 buts.
Elles sont un peu menteuses, les stats, plutôt concernant.
Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Mais on peut pas défendre les joueurs avec les stats.
Attends, 10 secondes, ne t'entends pas, juste le temps qui finisse, parce qu'il a reçu des sous, alors il est content de cette
Désolé, c'est automatique, c'est automatique. Juste Eve, elle nous fait un don de 10 euros, c'est merci Eve qui pose une question à Yacine, qui nous dit le club Manchester United va être racheté par le centre de Poissy, servira pour eux ou pour sortir les pépites comme style Nkunku.
Non, le centre de Poissy servira pour le PSG, c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas de lien avec Manchester United. On verra après qui rachète quoi, etc. Mais honnêtement, pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter sur le rachat de Manchester United. Je reviens sur Ekitike. En fait, je pense que Ekitike aujourd'hui, il est perdu dans je veux montrer que je sais faire des choses et je peux servir et je peux être au niveau des autres. Le problème des joueurs de foot, souvent, c'est qu'ils veulent. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'ils veulent faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Et la deuxième, c'est que quand ils sont en difficulté, ils cherchent encore plus compliqué, alors que c'est le moment où tu dois être dans la simplicité. Mmh. Faire des choses simples. J'appuie, remise, je demande, je joue mon ballon intérieur du pied, comme si j'apprenais le foot, mais c'est dans la simplicité. Et tu vas retrouver de la confiance et peut-être qu'après, tu feras autre chose. Moi, je pense que cette équipe de Marseille, elle est. Si tu leur mets que Messi et Mbappé, en fait, ça va être trop gérable. Trop gérable dans, finalement, il n'y a que Mbappé à couvrir parce que Messi ne prendra pas la profondeur. Voilà, je dis pas que ça va marcher. Et je pense, la dernière chose, pourquoi je partirai à 3, parce que je pense que si tu es avec Hakimi et Mendes, tu leur libères ce côté défensif. Et quand on voit la puissance qu'ils ont, capable de prendre les espaces, de faire des différences, et surtout avec Marseille qui défend l'individuel, honnêtement, ça peut. Encore une fois, hein, c'est pas, je ne suis pas voyant. Mais ça peut très vite tourner à la boucherie parce que Marseille fait presse beaucoup, court beaucoup, mais franchement, défensivement, il se passe des choses, il y a des dingueries, c'est hallucinant.
Mais ça ouais, mais justement, le truc, c'est que cette équipe de Marseille, elle a presque une dimension défensive, et une des manières de l'annihiler, c'est d'une certaine manière, c'est de leur laisser le ballon. C'est pas de jouer la possession à tout prix et de jouer vraiment les contres, et je suis parfaitement d'accord avec toi, sauf pour l'étiquette. J'avais revu des matchs même à Reims, il fait pas tant d'appels que ça, en fait, même quand il était seul en pointe à Reims, parce qu'il fait des appels parce que de facto il est devant, mais tu veux, c'est pas comme si, tu sais, c'est pas comme Cavani qui va te sortir un appel croisé ou etc. Il a pas cette qualité là. C'est plus, pour moi, c'est vraiment un 9,5 en fait. Mais bon, dans les faits, voilà, je chercherai à avoir Messi 10, ça me plaît beaucoup. En soi, ça serait plus Neymar, mais même si Neymar manque de vitesse, etc. Mais je pense que, en fait, le truc, c'est vrai, ce qui est particulier, c'est qu'Mbappé, il vaut deux attaquants, en fait. La qualité des appels de Mbappé, la dangerosité, c'est-à-dire que si tu trouves Mbappé tranquille, ça t'oblige à reculer, etc., etc. Ça vaut pour deux. La seule chose que je ferais vis-à-vis de Marseille, c'est de construire un collectif. C'est un peu ce qu'on avait fait quand on était à 4-4-2, c'est-à-dire d'être dans un pressing à partir du moment où tu es au milieu de terrain. Et sinon, tu sais, c'est un petit peu la réalité depuis pas mal d'années. Cette réalité qui a commencé par pass the ball to Ravière and let's see. Après, c'est devenu avec d'autres joueurs. Là, ce serait un peu la même chose. C'est-à-dire vraiment, vraiment se baser sur pas forcément des récupérations très hautes, plus l'objectif, c'est plus des récupérations au 35-40, dans nos 35-40, mais utiliser justement la qualité du jeu long de certains de nos joueurs et la qualité d'appel de certains autres pour essayer de trouver des solutions.
Surtout que la France d'Mbemba, elle est quand même importante.
Hein, de quoi?
L'absence d'Mbemba va être très
importante. Ouais, elle va pas beaucoup coûter. Mais ce Marseille, si tu joues la possession haute, là, tu leur donnes vraiment des outils parce que tu leur laisses mettre en place un jeu de pressing qui est très intéressant, qui maîtrise très très bien, même si, comme tu l'as rappelé, à force de tout se jeter, il laisse des tonnes d'espace. Mais tu leur offres l'opportunité d'avoir les récupérations hautes et c'est là-dessus qu'ils construisent l'essentiel de leur offensive. Alors que si... fondamentalement tu as ton bloc équipe, l'essentiel de ton bloc équipe qui est encore un peu derrière, les récupérations hautes ils n'en font pas tant que ça et ce ne sera pas trop utile. Donc la grande connerie à faire ce serait de jouer la possession très haute contre cette équipe et c'est ça qu'il ne faut pas faire je pense.
Justement je me demandais Marseille qui est habitué à jouer comme ça, comment Marseille joue, parce que moi j'avoue je ne les ai pas suivis parce que vous savez c'est les rivaux, ça ne m'intéresse pas, comment Marseille joue quand eux, ils ont le ballon. Par exemple, si on laisse Marseille faire le jeu, je sais que c'est pas très sexy et tout, mais des fois, comme Zidane, il dit souvent, faut être pragmatique. La meilleure manière de les battre, c'est de les aspirer et de les contrer. Donc, comment Marseille jouerait, selon vous, si on leur laisse la possession?
Mais Marseille, en fait, c'est une équipe qui vient dans ton camp. Tudor, c'est pas le genre d'entraîneur à dire... il a des principes, il va aller jusqu'au bout. Comment ?
Il est cohérent d'ailleurs.
Oh ouais, bien sûr, bien sûr. Et on l'a vu en coupe. Marseille, c'est une équipe, on l'a vu, je regarde moi certains matchs, comment puis-je travailler au club des 5, donc on fait un feu tous les matchs. contre Nice, où ils perdent d'ailleurs, mais tu vois, c'est pareil, contre Nice, ils ne sont pas dominés, mais voilà, Nice leur met deux contres. En plus, le gardien repousse deux ballons qu'eux suivent bien, parce que quand ils vont sur les contres, ils y vont en nombre, et ils suivent les deux ballons et ils mènent 2-0 à la mi-temps. Marseille, c'est une équipe qui vient dans ton camp. Et c'est une équipe qui n'a pas peur de mettre Gigot quand il joue, parce que lui aussi sera absent, mais Gigot au-delà du rond central, et ils peuvent être à 8 ou 9 dans tes 40 mètres. Donc, évidemment que si tu leur laisses le ballon, ils vont venir. Et là, je peux te dire qu'il y a un élément pour moi, et j'attends de voir justement demain, et c'est ce qui m'intéresse aussi sur ce que fait Tudor, contre Paris en coupe, parce qu'il n'y avait pas Mbappé, on a vu à un moment donné pratiquement 10 Marseillais dans les 40 mètres parisiens. Moi, je pense que demain, avec Mbappé, il y aura au moins un joueur, pour ne pas dire deux, qui n'auront pas le droit d'aller aussi haut, parce qu'il faudra couvrir cette profondeur. Et c'est ça qui va être intéressant. Mais malgré tout, s'ils n'ont pas ces deux joueurs-là, alors déjà Mbappé est capable de les prendre, parce que, comme je le répète, il n'y aura ni Gigo ni Mbemba. Bailly, il n'a pas joué pendant 7 matchs, donc déjà, il manque de rythme. Balerdi, ce n'est pas le joueur le plus rapide. Donc, il y aura, même s'ils sont là, les espaces seront là et la vitesse sera pour Mbappé. Mais en plus, du coup, ça va quand même leur enlever deux joueurs dans leur pressing. Donc, quand tu vas presser à 8 au lieu de 10, c'est pas pareil. Et là, il va y avoir des possibilités de transition avec Verratti notamment, avec Ramos qui peut jouer long. Et c'est pour ça que moi, Messi, dans ce rôle-là, un peu
ça fait sens,
autour du rond central, en 10...
Après, la problématique, c'est le Messi en 10, je le sens carrément bien, mais la problématique, c'est que Neymar ne peut plus faire les appels. Neymar, pourtant, c'était un cador, c'est plus vraiment le cas.
Neymar, il n'est pas là demain, donc c'est pour ça que je dis...
Ah, il n'est pas là ?
Non, Neymar, il ne sera pas là.
Oh, j'avais pas suivi. Ah oui. Ah oui.
Pour ça que,
mais depuis tout à l'heure, vous parlez de joueurs et je crois aussi que moi, je sais pas s'il y a eu une nouvelle entre temps, mais pour moi, Nuno Mendes, il était censé reprendre l'entraînement lundi.
Alors ouais, mais après hier, apparemment, je sais pas s'il était là hier d'ailleurs, mais il y a un doute en tout cas parce que en fait, il a juste une entorse du genou et si c'est pas trop grave, strapé, tu peux jouer. Le problème, ça va être la rechute, évidemment, pour l'instant, les nouvelles, elles étaient. Enfin, il n'y avait pas de forfait de Mendes acté. Neymar, on sait qu'il ne sera pas là. Mais voilà, c'est comme Hakimi. Hakimi, il a repris cette semaine tranquillement. Et là, hier, il était là. Moukele, c'est pareil, il a repris cette semaine. Et hier, il arrête l'entraînement un peu plus tôt avec Kimpembe. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts ou est-ce que ça veut dire que c'était pour les protéger? Enfin, il y a plein d'incertitudes dont on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que demain, Neymar n'est pas là. Et c'est pour ça que moi, j'ai positionné Messi en
10. Ok, j'ai compris. Après, moi, les 4, j'en peux plus. Donc,
écoutez, on va avancer sur le Bayern pour essayer de clôturer ce live. Après, c'est deux équipes complètement différentes. Le Bayern...
Conscience différente, t'es obligé de gagner, la Nix.
Ouais, le Bayern... Enfin, oui et non, ce serait une autre équipe. Je t'aurais dit que tu es obligé d'attaquer. Mais en fait, je me dis, est-ce que c'est pas quelque chose de fou, entre guillemets, de laisser le Bayern, parce qu'ils savent pas jouer sans attaquer. C'est-à-dire que si tu leur laisses le ballon et en mode, entre guillemets, on vous attaque pas, parce que eux, à mon avis, ce qu'ils attendent, c'est qu'on attaque pour nous contrer directement. Mais est-ce que le Bayern, entre guillemets, peut jouer sans attaquer? Elle est là, la question. Est-ce que ce club, parce que ce club, il a dans son ADN d'attaquer. Si tu les perturbes et tu les attaques pas directement, je pense qu'ils ne sauront pas quoi faire.
Ouais, je pense que le Bayern ne sait pas. Enfin, le Bayern, c'est le football allemand. Ils savent faire que ça. C'est pas une équipe qui va t'attendre. Moi, alors c'est que mon avis, contre le Bayern, moi, honnêtement, je jouerais le fameux match ping-pong. Parce que, en fait, je pense que si tu commences à calculer, on n'est pas une équipe qui sait calculer. Je reste persuadé qu'on n'est pas une équipe qui sait calculer. Et donc, avec les forces que tu as, je pense qu'il faut aller jouer. Par contre, de toute façon, je pense pas qu'on soit capable de le faire 90 minutes. Donc, la faculté du PSG à tenir à Munich, ça va être de mettre des gros temps forts, parce que le Bayern ne sait pas défendre, et d'être capable de gérer tes temps faibles en ayant la même idée. Ça veut dire que si tu as un temps faible et que tu décides de reculer pendant 10-15 minutes et le Bayern reprend le ballon, il faudra que tout le monde le fasse et pas que tu te dises « Bon tiens, on recule une partie, mais nous, on continue à se dire si on a des ballons de contre. » Non, il faudra réellement le faire ensemble. Tout le monde recule pendant 10 minutes, 15 minutes, voilà, dans ton temps faible. Et tout le monde réavance en même temps parce que le Bayern, je regardais le match contre Mönchengladbach, et même avant, parce que le Bayern, quand ils arrivent contre Paris, ils font 3 nuls en reprenant la Bundesliga. Le Bayern ne sait pas défendre. Et quand je dis ne sait pas défendre, c'est que le Bayern s'est pressé un peu à l'image de Marseille. Ils savent mettre de l'intensité, ils savent presser, mais en fait, ils ne savent pas défendre parce que de toute façon, leurs joueurs qui jouent dans les couloirs, c'est déjà à la base des attaquants. Donc, évidemment qu'ils ne savent pas défendre. Et quand on voit en plus De Ligt, qui est beaucoup moins bien que ce qu'il était à l'Ajax, bon, Pavard ne sera pas là, et c'est dommage, parce que je reste persuadé que Pavard, c'est un point faible. Et ben en fait, cette équipe, elle ne sait pas défendre. Et en fait, c'est à toi, justement, de ne pas te laisser piéger par ta possession, parce qu'ils sont aussi capables de jouer des transitions avec des Gnabry, avec des Coman qui vont très vite. Ça va être une partie d'échec, mais moi, je ne veux pas qu'on joue ce match-là en partie d'échec comme on l'a fait là, en se disant on subit d'abord. Moi, je veux pas qu'en fait que Galtier se dise il n'y a qu'un but de retard. Malheureusement, il a déjà parlé des tirs au but, donc c'est mal.
Il va se dire. Voilà. Mais se dire
j'ai qu'un but de retard. Donc les gars, tant qu'on est à 0-0, on est dans la course. Moi, je veux pas ça.
Est-ce qu'on a le choix? Le truc en fait, si tu veux, c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a zéro certitude en tant qu'effectif, mis à part le fait d'avoir un Mbappé qui est Fury Class et Messi qui a presque déjà décidé d'arrêter le foot alors qu'il était extraordinaire il n'y a pas si longtemps. Voilà. Mais on a tellement peu de certitude. Est-ce qu'on est capable de se dire, bah tiens, on va. Tu vois ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, est-ce qu'on va être capable de jouer en bloc pendant 90 minutes? Est-ce qu'on va être capable de. C'est ce que tu es en train de dire impliquerait que le Paris Saint-Germain ait une certaine confiance en lui, certaines connaissances de ses capacités. Et pour l'instant, on n'en a pas du tout. Et donc, du coup, j'ai quand même l'impression, et je sais, et je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose qui me déplairait au plus haut point. Mais inévitablement, enfin, je pense que le mieux, c'est de se dire attendre les 20 dernières minutes pour faire quelque chose. Parce que si tu commences à essayer de te dire bah tiens, je planifie sur 90 minutes, à l'heure actuelle, tu es incapable de le faire, en fait.
Je suis d'accord avec toi. Mais moi, je pense que si tu abordes le match comme ça, pour moi, tu tombes trop sur un pile ou face. Et d'ailleurs,
complètement. Mais de toute façon, enfin, le truc, c'est que c'est pour passer contre le Bayern, c'est faut jouer à pile ou face. Par rapport à notre niveau actuel, faut jouer à pile ou face.
Ouais, mais quand je dis ça, c'est parce que tu vois, par exemple, si tu te dis j'attends les 20 dernières minutes, et que.
En sachant que tu auras eu Mbappé qui sera obligé à reculer et que peut-être tu auras mis un but, etc. Mais
j'attends les 20 dernières minutes. Moi, ouais. Je fais partie des coachs qui. Préfère aller jouer, quitte à prendre un but, je préfère le prendre le plus tôt possible que te dire on va attendre. Au moment où tu commences à te lâcher, tu prends un but, sauf qu'il reste 12 minutes, tu fais quoi? Alors que si tu y vas d'entrée, tu prends un but d'entrée, au moins tu sais que tu en as deux à marquer, il n'y a plus le choix, il faut y aller. D'ailleurs, l'exemple de PSG Real de 93, pour moi, c'est tellement symbolique du PSG, c'est-à-dire que je reste persuadé que tu perds 2-1, tu ne fais pas ce match-là. Mais comme il y a 3-1, tu n'as pas le choix. Tu as déjà deux buts de... Alors, en plus, c'est arrivé des buts à l'extérieur, etc. Mais tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles. Moi, je pense que là-dessus, il faut le faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas, il faudra pas partir dans le n'importe quoi. C'est pas une fin de match.
Et tu viens de le dire, c'est que, à mon sens, on fait ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on va avec un plan où on ne se retrouve pas en fait dans l'attente et dans l'expectative. Dans l'expectative. On va se retrouver à... Mince, j'ai oublié l'expression que tu as utilisée, mais voilà, on va se retrouver à faire n'importe quoi. C'est-à-dire que ça va être complètement déstructuré, ça va être... Imagine, t'as Galtier, mais vraiment, et t'as Galtier qui débarque dans le Western et qui va dire « Eh les mecs, vous êtes à quai dès la cinquième minute, avec ce qu'on a fait, où est-ce que t'as des certitudes ? Où est-ce que... Est-ce qu'on a une animation avec ballon qui tient la route ? Est-ce qu'on a déjà vu une animation avec ballon qui tient la route cette saison ? Une animation sans ballon qui tient... On a zéro certitude. C'est-à-dire que si on commence, en fait, en disant machin, on va au mur parce que on n'a pas le nécessaire. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de défendre le fait qu'il faut attendre la 70e pour se dire « Bon, ben maintenant, on n'a plus le temps, il faut attaquer. » Je ne défendrai jamais ça. La seule chose que je suis en train de dire, c'est qu'à l'heure actuelle, tu n'as tellement aucune certitude, mais avoir à ce point aucune certitude, c'est rare dans le football. Enfin, non, si, si d'ailleurs, c'est rare. Tu n'as aucune idée de ce qu'est ce Paris Saint-Germain, ce qu'il vaut, ce qu'il est capable. Tu n'en as aucune idée. La seule chose que tu sais, c'est que tu as certains talents qui sont au-delà du compréhensible, machin, blablabla. Mais t'as... Que, bah ouais, à l'arrivée, le plus raisonnable, surtout que t'as un Mbappé qui potentiellement va les obliger à reculer, va les machins, etc. Et ils savent pas reculer, et donc voilà. Mais c'est te dire, bah tiens, j'attaque à la 70e, c'est peut-être le plus intelligent avec cet effectif-là. C'est pas quelque chose que je
défends du contexte.
C'est juste que va comprendre cette équipe à l'heure actuelle. Encore une fois, j'insiste, de l'animation avec ballon, si je suis de mauvaise foi, j'en ai vu. Non, animation sans ballon, pardon. Animation sans ballon, j'en ai vu en octobre-novembre, en novembre-décembre plus exactement, avec le milieu Ruiz, Vitinha, Marco. Mais sinon, j'en ai jamais vu d'animation sans ballon, de cohérence sans ballon, j'en ai pas vu une seule. Et avec ballon, c'est même pas la peine d'en parler, quoi. À aucun moment, on a eu des attaques construites, placées, que tu es capable de te dire, bien sûr qu'on en a quelques-unes avec les talents qu'on a. Que tu sais que tu vas en avoir 3 par match ou que... Non, t'en sais rien, en fait. C'est... Du coup, ouais, ça me semble plus raisonnable. C'est la meilleure chance de succès, effectivement, c'est le pile ou face.
Ok les gars, ce fut un plaisir de passer une heure avec vous pour parler de tout ça. Moi, ma stratégie, elle serait plus simple. Vous vous rappelez ce que Ramos il a fait à Salah en finale de Ligue des Champions? Oui. Il faut faire la même chose à Kingsley Coman et le problème sera réglé. Voilà.
Et on va pas le faire à un ancien, on va pas le faire à un ancien titien.
Il se gêne pas pour marquer contre nous parce que c'est un ancien parisien, donc on va pas se gêner.
À Moussiala qui est clairement le joueur.
Non, lui il marque pas contre le Paris Saint-Germain à chaque fois. Il faut faire la même chose à Kingsley Coman. Non, je rigole les gars. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à Paris United, de l'équipe de Yacine, et abonnez-vous à Paris Central aussi vu que vous êtes déjà là, comme ça fera une paire.
Merci les gars,
merci.